Le 7-9 sur France Inter.
Votre invité Léa Salamé signe une enquête qui paraît aujourd'hui dans la revue 21 sur le nazi de Damas. Aloïs Brunner.
Bonjour Eddy Aouidj.
Bonjour.
Une enquête exceptionnelle effectivement dans la revue 21. Aloïs Brunner était bien le nazi de Damas. Il a bien été protégé pendant 40 ans en Syrie par le régime d'Assad. On le soupçonnait depuis des années. Vous apportez de nouvelles preuves dans cette enquête. On va en parler. Mais d'abord, pour qu'on comprenne bien, rappelez-nous qui était Aloïs Brunner, qui était l'un des plus grands criminels nazis, celui dont Albert Eichmann disait « c'était mon meilleur homme ».
Tout à fait. Alors, Aloïs Brunner, il travaille avec Adolf Eichmann et c'est un technicien de la solution finale. Son rôle est de déporter les Juifs. Alors, il est responsable de la déportation de 56 000 Juifs de Vienne, 43 000 Juifs de Salonique, 14 000 Juifs de Slovaquie et 23 000 Juifs de France. Il a dirigé le camp de Drancy. Il a aussi déporté 3 000 enfants juifs français. Et il a déporté le propre père de Serge Klarsfeld.
Voilà, qui était Aloïs Brunner. Après la chute du Troisième Reich, il réussit à échapper au tribunal de Nuremberg grâce à un homonyme qui sera condamné à mort à sa place. Il parvient à se cacher et il arrive en 1954 à quitter l'Allemagne, à fuir l'Allemagne pour arriver à Damas. Comment ça se passe? Comment il débarque en Syrie?
Alors, après la Seconde Guerre mondiale, il y a ce que les Américains ont appelé la ligne des rats, qui passait par le Vatican en fait. Et Aloïs Brunner a profité de cette fameuse ligne des rats. Et il y avait deux routes. Il y avait une route qui partait en Argentine et il y avait une route qui partait dans les pays arabes. Les premiers Allemands nazis sont partis d'abord en Égypte où ils ont formé l'armée, les services de sécurité. Et Aloïs Brunner, lui, est allé ensuite en 54 en Syrie.
Alors, il est accueilli en Syrie. Et vous affirmez donc qu'il va être protégé par le régime de Hafez al-Assad. Vous dites, le deal était le suivant, la protection contre le savoir-faire nazi. Pendant 40 ans, Aloïs Brunner a formé quasiment tous les dirigeants des services de renseignement syriens. C'est ce que vous dites. Preuve à l'appui.
Il a formé le premier cercle autour de Hafez al-Assad. Tous les noms que les gardes citent sont vraiment le cercle restreint. D'ailleurs, les gardes disent ils ne forment que les chefs. Hein. C'est pas pour le menu fretin Brunner. C'est vraiment pour les chefs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Brunner, comme on le dit dans l'enquête, il est salarié du régime de Damas. Il est habillé par le régime de Damas.
Il reçoit un salaire tous les mois
et il reçoit aussi des vêtements par le régime de Damas. Il est logé par le régime de Damas. On ne peut pas imaginer qu'un aussi gros poisson, entre guillemets, arrive en Syrie et qu'on le laisse dans un appartement sans bénéficier de son expertise. Puisque les Égyptiens en tout cas, l'avaient fait avant les Syriens.
Ça fait des années que Serge Klarsfeld, que Simon Wiesenthal, que tous les chasseurs de nazis, que tous ceux qui s'intéressent à ces choses-là disaient Aloïs Brunner est en Syrie. Et on l'a entendu dans l'extrait de Patrick Cohen. Hafez al-Assad niait systématiquement « Je ne connais pas cet homme, pas du tout, pas du tout, pas du tout », disait le président syrien. Tout le monde savait, affirmez-vous, toutes les chancelleries, Washington, Berlin, Paris, tout le monde savait que Brunner était à Damas. Pourquoi personne n'a bougé?
Mais parce qu'on l'explique aussi dans le papier, si vous voulez, la Syrie a une position géopolitique très particulière. Il y a d'autres cas beaucoup plus pressants que récupérer Aloïs Brunner, comme le dit un moment, on lit dans le papier, comme le dit l'ambassade des États-Unis, il dit bon, ben voilà, moi j'ai des histoires de missiles, des histoires des otages, j'ai pas eu le temps de parler d'Aloïs Brunner. Ensuite, on dit tous les services de renseignement. Il n'y a pas besoin d'être allé jusqu'au service de renseignement pour dire, voilà, il suffit de taper aujourd'hui sur. Tout le monde savait que Aloïs Brunner était en Syrie. On a essayé de l'assassiner deux fois. Alors c'est sans doute le Mossad, mais ensuite c'était un petit peu cher d'aller chercher, c'était compliqué. Et puis Hafez a toujours nié.
La nouveauté de votre enquête, ce qui est vraiment nouveau ici, c'est le témoignage de trois hommes, trois Syriens. L'un à visage découvert, on voit sa photo. D'ailleurs, vous la montrez dans la revue 21. Et deux autres sous couvert d'anonymat. Trois membres des services de renseignement, trois gardes du corps d'Aloïs Brunner qui l'ont protégé pendant des années. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de parler maintenant?
Le premier qui s'exprime, ses motivations sont politiques. Il est contre le régime, il considère que ce régime est pire que les nazis, et il décide de parler. La différence entre le premier témoin et les deux autres, c'est que les deux autres étaient des gardes salariés. Lui, il fait seulement son service militaire dans les services de renseignement. Donc, il est beaucoup moins attaché que les autres à son ancienne unité, entre guillemets. Et là, lui décide de parler. Il dit, voilà, il faut absolument que ça se sache.
Comment vous vous assurez qu'il est fiable? Comment vous vous assurez que ces trois témoignages sont fiables?
si vous voulez,
les recouper,
à partir
comment ça
du
se
moment,
passe
alors je travaille. Cette enquête n'aurait pas été possible sans Mathieu Palin, puisque on la co-signe. Lui fait toutes les vérifications. Quand vous avez un premier témoignage, bon, très bien. Mais à partir de ce moment-là, Abou Yaman, chez qui je suis, me dit je vais vous trouver les autres qui ont gardé Aloïs Bruner avec moi. Et là, on commence à trouver plusieurs personnes. C'est assez compliqué, ça prend un certain temps. Mais tous les autres confirment tout ce que Abou Yaman me raconte.
Et vous nous racontez exactement les détails
exactement.
De la vie de Bruner.
Et ce qui se passe, qui est intéressant aussi, c'est que pendant ce temps-là, les recherches sont faites à Paris. Et on a des détails aussi qui correspondent.
Voilà. Et donc vous racontez véritablement, et c'est vraiment à lire dans cette enquête-là, comment dans les années 60, il se baladait sans problème en Range Rover dans Damas, et progressivement, ils vont l'enfermer dans une maison, il n'aura plus le droit de sortir, il n'aura plus le droit de recevoir des gens, et puis la fin, et c'est là où là aussi il y a une vraie nouveauté, vous racontez la fin d'Aloïs Bruner, détail à l'appui, et vous affirmez d'abord qu'il est mort en 2001, alors que jusqu'à maintenant, Klarsfeld disait qu'il était mort en 92, Wiesenthal disait qu'il était mort en 2010, vous affirmez non, il est mort en 2001, et il est mort dans un espèce de cachot, sans hygiène, sans rien, il est mort comme un chien, seul. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été lâché par Bachar al-Assad ?
Alors, il a été lâché par Bachar al-Assad. Oui, il a été lâché, mais alors ce qui est intéressant, c'est que ce régime, comme on le dit aussi dans l'article, on a rencontré un des hauts responsables du régime qu'ils connaissent très bien de l'intérieur, ils disent, ce régime, c'est comme la mafia. Donc, quand on protège quelqu'un, on le protège, mais quand on n'en a plus besoin, on le met dans un cul de basse-fosse. En revanche, Bruner, bon, on en aurait peut-être eu besoin jusqu'à un certain temps. Donc, on le laisse quand même dans un cachot, on ne sait jamais. On va peut-être l'utiliser un jour ou l'autre.
Et donc, il est mort. D'ailleurs, Serge Klarsfeld vous demande, quand vous lui dites qu'il est mort en 2001.
C'est la première chose que Klarsfeld nous demande. Est-ce qu'il a souffert ? Et on lui dit oui. Et Klarsfeld nous répond, j'aurais du mal à avoir de la peine pour cet homme. C'est la première question qu'il pose, oui.
Aloïs Bruner n'a pas payé pour ses crimes. Il a été condamné par la justice française en 2001 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et un détail qui est intéressant, vous racontez le décalage véritable entre ces hommes qui vous racontent, qui ont gardé Bruner pendant des années. Ils vous disent, on savait que c'était un méchant, mais au fond, les Syriens n'étaient vraiment pas au courant de qui il était, de la Shoah, du Troisième Reich, de ce qui se passait sur le nazisme. Vous montrez ce décalage-là aussi.
Alors, ce décalage, c'est une question de perception, en fait. En Europe, en Occident, la Shoah nous a façonné intellectuellement, façonné historiquement. Ce n'est pas du tout le cas dans les pays arabes. Et puis les Arabes disent, alors juste ou pas, ça c'est une autre question, c'est pas à moi de répondre à cette question, ils disent, mais nous on n'a pas fait le génocide, c'est l'Occident qui a fait le génocide. Donc ils ont un rapport qui est très très différent. Donc eux disent, oui voilà, c'était quelqu'un qui était un bras droit d'Hitler ou un personnage important d'Hitler. Mais à part ça, oui, ils ont une perception qui est très très différente de la nôtre.
Eddie Awich, votre enquête fouillée, passionnante, est à lire avec Mathieu Palin, donc est à lire dans l'excellente revue 21 qui sort aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup.
En librairie, évidemment, comme chaque revue 21. Merci à vous Léa Salamé, il est 8h moins 2.